Rencontre littéraire, Václav Richter.
La 16e édition de la foire Le Monde du Livre a été l'occasion d'inviter à Prague l'écrivain français Jean-Marie Blas de Robles, auteur du roman « Là où les tigres sont chez eux ». Cette œuvre monumentale et labyrinthique qui a d'abord découragé les éditeurs avant de finalement devenir le plus grand succès de son auteur a obtenu en 2008 plusieurs prix littéraires et notamment le prix Médicis. Le roman qui met en contrepoint le XVIIe siècle et notre temps et raconte la vie d'un jésuite de la période baroque ainsi que celle de plusieurs personnages contemporains a été traduit et publié en 2010 en République tchèque. Un des objectifs du passage à Prague de Jean-Marie Blas de Robles était donc de présenter cette œuvre insolite au lecteur tchèque. Et c'est ce qu'il a fait aussi au micro de Radio Prague. Vous êtes né en Afrique, vous avez vécu dans plusieurs pays, vous avez écrit un grand roman qui se passe au Brésil et en Europe et qui s'appelle « Là où les tigres sont chez eux ». Où êtes-vous chez vous ?
Je suis chez moi en France, je suis chez moi dans ma langue en fait. C'est vrai que je suis ce qu'on appelle un pied noir, je suis né dans l'Algérie française. Et que j'ai été rapatrié en même temps que tous les Français d'Algérie dans les années 60, en 61. C'est vrai aussi que, du coup, je suis quelqu'un de la Méditerranée, je suis quelqu'un du pourtour de la Méditerranée. Je me sens latin, et comme je le disais au départ, mon vrai pays, c'est la langue, et en particulier la langue française.
Et vous êtes l'écrivain, mais vous êtes aussi l'archéologue. Est-ce que l'archéologie et la littérature ont quelque chose de commun ? Est-ce qu'elles peuvent se compléter d'une certaine façon ? Dans quelle mesure l'archéologie a influencé votre création littéraire ?
Dans mon cas, l'archéologie est seconde. Je suis d'abord passionné par l'écriture depuis toujours. L'archéologie est venue dans un second temps. C'est une passion parallèle, certes, que j'ai poussée très loin. Et donc, à mon avis, elle n'intervient pas dans le processus d'écriture, même si la fascination pour l'origine, qui est celle de l'archéologie, rejoint parfois certaines questions littéraires, ou peut-être même certaines structures narratives, les strates, ce qu'on appelle une stratigraphie en archéologie, peut se plaquer un petit peu sur la littérature. Mais dans mon cas, non, ce sont deux activités parallèles. Et si l'archéologie nourrit un jour un roman ou la littérature de mon côté, ce sera par hasard, comme n'importe quel voyage, n'importe quelle expérience vécue peut nourrir à un moment donné ou l'autre la création.
Votre plus grand roman, Là où les tigres sont chez eux, marie plusieurs récits et se passe en deux époques différentes. On dit que c'est un roman qui est très difficile à résumer. Est-ce qu'il est vraiment irrésumable ?
Je ne crois pas qu'il soit irrésumable. Sinon, si ça n'avait pas été clair dans mon esprit, je n'aurais même pas pu l'écrire. Non, je crois que c'est simplement un roman qui imbrique plusieurs histoires, selon un procédé traditionnel dans la littérature, comme les romans de Potocki ou des choses comme ça, avec un procédé littéraire qui est très utilisé en littérature aussi, qui est celui d'un manuscrit retrouvé. Et ce qui fait peut-être la différence, c'est que bon, le manuscrit qui est retrouvé dans mon roman est un manuscrit censé avoir été écrit au XVIIe siècle, qui raconte l'histoire d'un jésuite qui a réellement existé. Et donc on va suivre, en même temps que la biographie de ce jésuite célèbre, Athanasius Kircher, on va suivre les vies de 4, voire 5 autres personnages, mais dans le Brésil contemporain, avec des destins qui s'entremêlent, qui s'imbriquent, mais qui finissent tous par converger quand même sur la figure de ce fameux jésuite.
Donc le jésuite a quand même existé, vous dites. Quel est le rapport entre la réalité et la fiction dans le roman ?
Ça n'est que de la fiction. Pour ce qui est de la biographie de ce jésuite, j'en reprends, sont vraies toute la chronologie, toutes les œuvres qu'il a pu écrire. Mais ensuite, bien sûr, quand je le fais discuter avec le Bernin, ou quand je le fais vivre ou penser, c'est de la fiction complète, puisque on n'a que ses ouvrages en latin. Et c'est surtout que j'ai volontairement perverti l'image biographique de ce jésuite. Mon propos n'était pas de raconter même une biographie romancée de Athanase Kircher, mais au contraire de faire de ce jésuite une figure littéraire, un personnage comme celui de Don Quichotte, un pourfendeur de la raison, lui qui a choisi de sauver l'ancien monde, le monde de la Renaissance, contre l'âge des Lumières qui était en train de naître à son époque.
Est-ce que tous ces récits que vous entremêlez dans votre roman, tous ces personnages que vous présentez dans votre roman, ont quand même quelque chose qu'on pourrait appeler un dénominateur commun ?
Leur seul dénominateur commun, c'est de se poser tous plus ou moins les mêmes questions. Celles que se pose Kircher, celles que se pose tout homme, en fait, au cours de sa vie, c'est la question de l'origine, la question du paradis perdu, la question du sens de l'existence, la question du choix, de l'engagement d'une vie et de la responsabilité donc de ses choix. Mais chacun des personnages y répond différemment, et parce qu'il y répond différemment, se trouve emmené dans des voies différentes et un vécu différent.
Votre roman se passe en deux époques, dans l'époque actuelle, contemporaine, et puis aussi en Europe du XVIIe siècle. Est-ce que c'est aussi une espèce de confrontation, de comparaison, peut-être un parallèle entre les deux époques ?
Absolument, parce que lorsque j'ai commencé à travailler sur Athanasius Kircher, je me suis aperçu que le XVIIe siècle était traversé par la guerre de 30 ans, par une guerre civile, donc un schisme religieux. Il était traversé par une crise des valeurs, une métamorphose des valeurs, justement avec la naissance de la rationalité, de la raison, de l'esprit scientifique qui faisait si peur à Athanase Kircher. Même chose, l'empire, le royaume de la chrétienté se trouvait, ou se pensait, acculé par les Ottomans, par l'islam qui était aux portes de la chrétienté à cette époque. Et ça m'a semblé être un miroir parfait de ce qui se passait dans les années 80 en plein Europe. Il y avait là une guerre civile en plein Kosovo, à Sarajevo, avec le cœur de l'Europe, de la vieille Europe qui était à feu et à sang. Il y avait une crise des grandes idéologies porteuses du communisme, la chute du mur de Berlin, donc crise des grandes valeurs porteuses, en tout cas qui avaient porté une partie de l'Europe vers certains choix. Et même chose, peur irrationnelle de l'islam, de renaissance de cette religion qui faisait peur, qui fait toujours peur aujourd'hui, même si c'est de façon plus ou moins rationnelle. Et donc, ce m'a semblé très intéressant d'établir un parallèle entre ce XVIIe siècle et notre siècle. Et pour que ça soit encore plus, je sais pas, cohérent, signifiant, de comparer non pas le XVIIe siècle de Kircher avec le siècle d'aujourd'hui en Europe, mais de comparer notre siècle avec le siècle brésilien d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec un pays qui soit un nouveau monde, qui soit un monde où tout est possible, un monde comparable à celui dont rêvait Kircher ou à celui dont nous rêvons tous, celui où on peut tout recommencer, rembobiner, revenir au début, celui où on peut trouver encore des tribus qui n'ont jamais été civilisées, donc un monde de la virginité où la possibilité de commencer réellement quelque chose de nouveau existe.
Nous vous présenterons la seconde partie de l'entretien avec Jean-Pierre Blas de Robles dans la prochaine édition de cette rubrique, le samedi 22 mai. Cette émission vous a été proposée par Václav Richter. Merci à Irena Viernochová, réalisation technique, et à André Charovec, prise de son.